Bon, bonjour famille. Comment allez-vous? Alors bien, non? Après une louange qu'on vient d'entendre, notre corps doit brûler. C'est ce que dit la parole. Qu'est-ce qu'il a dit Damien? Qu'il faut se réjouir. Et je, avant de commencer, voilà, je vais sortir un peu de protocole parce que je veux justement remercier aux personnes voilà, qui sont au service du Seigneur. À Damien, Samuel, ses enfants, Jelly, une nouvelle. Le piano était vide, mais nous, il n'y a personne. Comme on dit, Dieu prend et Dieu c'est lui qui va mettre tout le temps des nouvelles personnes. Moi, je remercie ces personnes. Samuel, qu'est-ce qu'il dit la parole? Dans Josué, je crois, 24, 5, je crois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il dit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est quelle bénédiction, quel privilège. Et aussi à toutes les personnes qu'on ne voit pas des fois, qui préparent ici la salle, au moment que vous arrivez, tout est prêt. Là, c'est un service. Et croyez-moi que ça sera récompensé dans le ciel. Désolé pour sortir du protocole, mais je voulais remercier à vos serviteurs de Dieu. Bon, aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui est concerné pour tout le monde, pour nous tous, n'importe quel âge. C'est pour les jeunes jusqu'à les adultes. Et le thème, c'est notre héritage. Notre héritage. Et pour commencer, voilà, on va mettre le contexte. Je vais parler de trois générations. Mais on va y aller dans le livre de Juges, du chapitre 2, du verset du 7 au 13. Il faut que je mette les lunettes. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Là, il dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils d'un homme, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timon-Héré, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils serviraient Baal et les Astarté. Wow. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Dieu? Ici, je vois trois générations. On a les pères, les fils et les petits-enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passait avec le peuple d'Israël? La première génération, les pères, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vu les miracles, ils ont connu Dieu. Mais c'est une génération un peu, entre guillemets, têtue. Dieu les a fait parcourir 40 ans dans le désert. Et normalement, le chemin pour y aller à Canaan, c'était proche. Mais quand Moïse, tout le temps, par exemple, partait vers la montagne pour prier ou chercher Dieu, qu'est-ce qu'il se passait? Qu'est-ce qu'il faisait le peuple? La première chose qu'il disait, bon, Moïse, il ne vient pas, on était mieux en Égypte. Il commençait à mettre des idoles. Il commençait à mettre les idoles qui sont connues en Égypte. Et vous savez qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces générations? Dieu n'a pas passé ces générations. Ils n'ont pas vu la terre promise. Il n'y a que deux personnes qui sont passées. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour les venir. Mais Dieu n'a pas enlevé la promesse. Parce qu'il l'a donné à l'autre génération. C'était quoi l'autre génération? C'était les fils. Josué, Caleb, c'était justement la nouvelle génération. Quand ils ont vu les miracles, c'était petit. C'était les enfants. C'était la deuxième génération. Mais ils ont vu les miracles. Et je m'imagine que c'était des enfants. Et quand un enfant, je ne sais pas, on voit quelque chose, on est merveillé. On se dit, oui, c'est merveilleux. Je m'imagine que, je sais pas, quand Dieu faisait manger le peuple, qu'est-ce qu'il tombait du ciel? La manne. Si vous imaginez, maintenant, je ne sais pas, que ça tombe la nourriture du ciel, un enfant, je m'imagine que ça va, oh, papa, regarde. Le miracle, sorti de l'eau de la roche, ils ont vu les miracles. Et c'est une nouvelle génération, je pense que c'est notre Église, c'est nous. C'est voilà, c'est ce qu'on a vu et nous on a continué, on a persévéré, on a adoré le Seigneur. Ça c'est une génération qui a été bénie. Mais après, il vient la troisième génération, les petits-enfants. Qu'est-ce qu'il dit dans Juge? Qu'après la génération de Josué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils commencent à chercher les dieux de Dieu, les Baal. Qu'est-ce qu'il se passait? Ils se sont perdus. Maintenant, on va se mettre dans notre cas. Dans notre cas, c'est qui? C'est nos enfants, les gens, la nouvelle génération. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas la nouvelle génération? Pourquoi il a un fossé spirituel, entre guillemets? On s'est rendu compte que maintenant, avec la nouvelle génération, ils commencent à vivre, entre guillemets, des réalités virtuelles. Ils vivent dans un autre monde. Si on enlève ça, pour vous, c'est la catastrophe. J'ai vu je ne sais pas qui m'a envoyé un prêche. Un enfant qui dit, s'il n'y a pas l'Internet, je suis foutu. Je ne sais pas, je me pense que c'était comme ça. Ils ont dit, si on n'a pas l'Internet, si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre sans ça. Ils sont désespérés. Des fois, quand tu les donnes tous les jouets, tu les achètes. Mais ils ne trouvent pas la valeur de combien ça coûte ça. Ou l'effort que tu as fait pour travailler pour pouvoir les donner ça. Ils vivent dans un monde irréel. Mais pourquoi? C'est à cause de nous, les parents. Parce que des fois, j'ai vu que les parents, non, je le dis, parce que comme ça, voilà, il ne va pas faire de bruit. Comme ça, il est tranquille. C'est le plus facile à faire. Mais on déforme l'enfant. Nous, des fois, on travaille et on est concentré sur le travail. On n'a pas de temps pour les enfants. Ou des fois, quand on vient, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chercher la télé pour le canapé, se reposer un peu. C'est vrai, parce que la vie est fatigante tous les jours. Et simplement pour les pères, c'est pour tout le monde. Parce qu'on a des affaires. Mais des fois, je me rappelle qu'un jour, mon fils ou ma fille m'a dit: papa, tu travailles beaucoup. Je veux jouer avec toi. Et je lui ai dit: c'est bon, je travaille. Mais après, je le fais. C'est important de passer le temps avec eux. Il faut les former. Il faut les fondamenter dans la roche, mon Seigneur. Ce n'est pas Netflix, ce n'est pas TikTok qui vont le former. Ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas la télévision. Qu'est-ce qu'ils regardent? Des fois, même, ils s'ennuient. Ah, j'ai rien. Je ne sais pas quoi regarder à la télé. Je me rappelle à mon époque, il avait 4 ou 5 chaînes dans la télévision. Et moi, j'ai galéré pour avoir une demi-heure. J'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'il regardait 30 minutes. En noir et blanc, en plus. Des fois, la couleur, je l'ai connue après. Mais je ne dis pas mon âge, 25 ans, je veux dire, voilà. Mais bon. Mais voilà. On devait faire des efforts pour avoir quelque chose. Je sais que mes parents, ce n'étaient pas des chrétiens. C'était des catholiques, mais simplement traditionnels, mais pour le nom. Mais ce n'étaient pas des pratiquants. Mais on sait au moins qu'ils m'ont donné de certaines choses pour valorer, pour la nourriture, pour manger. Moi, je disais: bon, j'aime pas les carottes. Je dis: ok, tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. L'acide pouvait rester jusqu'à le soir. Et comme j'avais tellement faim, bon, n'avait rien de plus, je mangeais les carottes. Il fallait s'habituer. Mais maintenant, les enfants, tu l'achètes une pizza, on l'élève tout, il reste que la pâte. Tu un Big Mac, il reste que le pain. On les gâte, les enfants. Mais des fois, on ne les montre pas la valeur. Je me rappelle que ma mère me disait: si tu ne manges pas, tu sais, en Afrique, combien de enfants morts. J'avais tout le temps la phrase ici. En Afrique, les personnes morts, et toi, tu ne veux pas manger ça, tu sais combien d'enfants voulaient manger cette assiette. Moi, je n'ai pas compris. Ils sont fous, les Africains. Je ne suis pas un Africain. Là. C'est ce que je pensais quand j'étais petit. Mais maintenant, je sais qu'est-ce que le vrai significat des phrases de ma mère. Mon père, il n'avait pas beaucoup de temps pour moi. Il travaillait beaucoup. Je ne me rappelle pas avoir joué avec lui. C'était plus ma mère, que je voyais. Mais quand même, il me donne. Indirectement, j'héritais des valeurs de lui. Par exemple, jamais il a bu l'alcool ou il fumait. Peut-être c'est à cause de ça que jamais je ne voulais prendre ni l'alcool ni fumer. C'est indirectement parce que l'entourage où tu habites va t'impacter. Si tu vois des parents qui jouent du piano, de guitare, croyez-moi que l'enfant, il va jouer piano, guitare. Moi, j'ai entendu tout le temps, quand on voit les reportages pour les musiciens, je me suis dit: pourquoi tu t'avais mis la musique? Ah, parce que je me rappelle que comme mon père, il mettait des chansons anciennes, romantiques. Je les ai entendues tout le temps, je les écoutais. Et moi, j'ai bien aimé, il commençait à chanter. Indirectement, nous, on forme nos enfants. Les enfants savent tout. Mais on pense pas qu'ils nous écoutent, mais ils savent tout. Ils savent qu'on est en colère, qu'on est contente. Et on les montre des choses que des fois, je me rappelle aussi qu'on venait de personne à. Parce qu'on n'a pas payé la facture d'électricité. Et dit, non, 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 maman me disait, dis au Seigneur qu'on n'est pas là, qu'il était enfermé à clé. Je sortais par la fenêtre, oui, monsieur, désolé, ma mère n'est pas là, mais nous, on est enfermé à clé. Oui, peut-être il vient de demain après-midi, vous pouvez passer. Vous savez, ça commence à prendre des mensonges. Ma mère dit, sinon, c'est des petits mensonges, mais voilà, mais ils ne sont pas terribles. Mais non, mais on ne se rend pas compte qu'on commence à vivre avec le mensonge. C'est ce qu'on commence à hériter. Ce type de valeur, des fois, indirectement. Et maintenant, notre nouvelle génération commence à se perdre. Maintenant, l'Internet, les réseaux sociaux, je vois beaucoup de Facebook, TikTok. Les filles en train de faire tout type de spectacle pour se montrer. Pour dire, voilà, je suis là, j'existe. Et là, je pense qu'ils communiquent plus avec les personnes du monde qu'avec tes parents. Ou peut-être des fois parce que elle essaie de parler avec quelqu'un et il n'a pas de communication avec les parents. Et c'est à nous. Voilà. Et ça, pas simplement de père au fils. Ça peut être de un frère à ton couple, à tes parents. Nous, on a reçu, on était bénis par le Seigneur. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est nous qui on va venir aux autres. C'est nous qui on doit ramener la bonne nouvelle qu'on a eue et ramener aux autres. Pour mes parents, j'avais témoigné une fois. Ma mère était tellement catholique, quand je me suis marié dans une église évangélique, elle m'a dit, je vais t'aider. Elle m'a aidé à acheter les vêtements, tout ça. Mais je ne vais pas y aller à ton église. Parce que c'était une église évangélique. Mais si tu rentres dans une église catholique, je serai là-bas. À ce point-là. Et c'est dur des fois pour un enfant. J'ai voulu que ma mère soit là-bas. Mais Dieu fait les choses tout le temps. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu permet certaines choses des fois. Mais moi, j'ai prié pour eux tout le temps. Ma mère était fermée, catholique, personne ne pouvait la bouger. Et mon père, athée. Mais il est venu. Il était athée, mais il est venu. Mais parce qu'eux, ils ne sautaient pas non plus, formés par quelqu'un. Moi, quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai partagé du Seigneur. Mais avec simplement nos actes. Des fois, simplement, il ne faut pas parler parce que des fois, les personnes, ils ne vont pas t'écouter. Nous, on ne force pas. Ce n'est pas moi qui va convaincre mes parents pour se convertir. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Mais moi, je vais parler. Même s'ils disent oui ou non, ce n'est pas mon problème. Mais je dois le dire. Je dois ouvrir ma bouche pour le dire. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il faut se repentir. Mais il faut le parler avec l'amour. Il ne faut pas le juger. Quand je m'approche de quelqu'un, je ne le juge jamais. Ce n'est pas moi qui vais juger une personne. Nous, on est tous des pécheurs. Sinon, comme on dit, je suis le premier qui lance la pierre. Et c'est pour ça, après 15 ans, 15 ans, mes parents sont assistés dans une église évangélique. Et c'est ici. C'est un premier pas. Parce que c'est un processus. Ce n'est pas la magie qu'on pense que voilà, c'est bon, l'un d'œil ou l'autre. Non. Ce n'est pas toujours couleur de rose, mais c'est un processus. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Père et parents, il faut persévérer pour ses enfants. Pour que ses enfants soient ici. Pour que ton couple soit ici, pour que tes parents soient ici. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est que pour les personnes courageuses. Dans Juge 21-25, qu'est-ce qu'il avait? À cette époque-là, il n'avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est pas pareil maintenant? Quand il n'y a pas un roi, on faisait ce qu'on veut. Et l'anarchie, en français, je crois qu'on dit comme ça. C'est qu'on faisait ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas une autorité. Il n'y a pas une autorité. Peut-être c'est nous. Des fois, vous savez, pour tenir la paix, entre guillemets, dans une famille, on ne dit rien du tout aux enfants. Parce qu'on a peur de bouleverser l'enfant ou qu'il part de la maison. Mais non. On a l'autorité pour donner des limites. Moi, mon enfant, je le lève comme je t'ai levé. Je lui dis, je peux t'acheter la PS1 ou Xbox, je ne sais pas quoi. Mais je ne te l'achète pas parce que je sais que quand je te vis jouer une fois à la console, tu vas devenir accro. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on ne comprend pas. Mais vous savez, Jésus, quand il était allé à la croix, il savait qu'il allait mourir. Mais il avait une phrase qui m'a touché, qu'il avait dit, il avait douté, il avait dit, non, mais si c'est possible, comme on dit, passe-moi de ces coupes, je crois en français, passe-moi de cette étape, je ne vais pas le faire. Mais que ta volonté soit accomplie. Mais le Père l'a dit. Il a dit à lui non. Parce qu'il a pensé à ton salut. À ton salut éternel. Et nous aussi, les parents, on peut dire non. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Et des fois, malheureusement, on le sait quand on est grand, quand on est adulte. Et tu commences à valoriser ce que tes parents t'ont dit. L'autre fois, j'ai vu Jérémy m'a raconté que la personne parlait avec un jeune qui connaît de notre église, qu'il avait dit, il avait 24 ans, je crois. Maintenant, je regrette tout ce que j'ai fait à ma mère. Il a voulu me donner des études, mais je n'ai pas voulu faire des études. Maintenant, il a un enfant. Il voudrait étudier. Mais il dit, je ne peux pas étudier. Il faut que je travaille pour nourrir mon enfant. Je regrette ce que ma mère m'avait dit, tout le temps m'avait conseillé de faire des études. Je connais mon ami de mon travail. Il me parle, il me dit, j'ai une fille de 24 ans. Il ne sait pas quoi faire. Il a fait ça, il a abandonné après 6 mois. Il a voulu faire le BTS, il a abandonné. Parce que c'est facile d'abandonner. Mon fils, il a voulu abandonner le piano. Pensez-moi qu'il a poussé, qu'il a forcé. Maintenant, il a pris goût. Parce que je lui montre que si tu fais une chose, il faut le faire jusqu'à la fin. Avec excellence, dit la parole. Que tout ce que tu fais dans le monde, le fais au monde spirituel avec l'excellence. Il ne faut jamais abandonner. Ce n'est pas facile la vie. Moi, je voulais étudier l'informatique. Mais il avait des matières que je n'ai pas aimées. Mais il faut la faire. C'est des sacrifices. Moi, je rappelle, je m'avais donné des lectures. Moi, j'ai détesté faire la lecture. Et dans ma vie, j'ai lu 2 livres, à part la Bible. Ce qui était forcé. Et j'ai galéré pour le faire. Mais c'est un sacrifice. Et croyez-moi que la vie chrétienne, c'est pareil. C'est une décision mais c'est un sacrifice. Pourquoi? Quand Jésus appelait, il fait les appels aux disciples. Il a dit à Simon, il a dit, suis-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Attends, laisse-moi une journée, je peux réfléchir, attends, comment dire le français, je ne sais pas, attends. Voilà. Il a dit oui. Il avait posé la même question à un riche. Il a dit, tu veux me suivre? Laisse tes richesses dans aux personnes plus pauvres, voilà. Il ne l'a pas suivi. Parce que des fois, c'est facile d'être dans la vie tranquille, confortable, sans faire des efforts, sans faire des sacrifices. Mais aux disciples, ont dit oui. Mais est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il allait faire avec eux? Il a dit leur plan. Il a donné des détails. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Rien du tout. Simplement, il a dit, tu veux me suivre? Oui, allez, viens avec moi. Quand Dieu appelle, la parole dit qu'il donne l'eau, vouloir et le faire. Il n'a pas d'excuse pour l'appel. Sinon, on va voir par exemple les personnes qui ont mis des excuses. On va commencer par Moïse. Dans Exode 4, 10. Moïse dit à l'Éternel, je vais paraphraser. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. C'est ni hier, ni avant-hier. Qu'est-ce qu'il dit? Il a la bouche et la langue embarrassée. Lui, il était bègue. Il avait une excuse. Gédéon, dans Juges 6, 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je ne suis le plus petit dans la maison de mon père. Il n'était pas prêt pour lui. Abraham, Genèse 17, 17. Abraham tombe sur sa face, il rit et dit en son corps, naîtrait-il un fils à un homme de son temps? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Vous savez que Dieu l'avait donné qu'il serait le père de génération, voilà il avait donné la promesse. Imaginez-vous que quelqu'un vous dise, je ne sais pas, 80 ans, tu vas avoir un enfant. On va croire. Des fois, on donne des excuses. Il dit non, je suis vieux, il n'est pas l'âge. Ah, non. Jérémie. Ainsi, une autre excuse. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. De l'autre côté, on voit une personne âgée. Là, c'est une personne jeune. Tout le monde est pour faire l'appel. N'importe quel âge. Donc, Esther 4, 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple de Provence du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quoi quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour antérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie sauf, à qui le rentre les sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Elle allait mourir si elle se présentait au roi à son rendez-vous. Des fois, on dit qu'on n'est pas prêt. On pense, on donne des excuses. Ah non, il faut que je commence à étudier, je ne connais pas la parole, il faut que je me forme, je dois être formé. Là, elle a dit, je suis trop vieux, je suis trop jeune, c'est trop dangereux, je suis faible. On donne toutes les excuses. Mais Dieu, justement, il va te fortifier, il va se glorifier dans ta faiblesse. Parce qu'il m'a montré la gloire aux autres dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur à l'appel. Est-ce que tu as vraiment eu un appel? Parce que nous, cette génération, vous avez eu des livres de bataille, vous avez eu une rencontre personnelle face à Dieu. Mais est-ce que vos enfants, le fait que ils sont élevés dans un milieu chrétien, est-ce qu'ils ont eu cette rencontre aussi? Eux aussi, ils doivent les délivrer ces batailles. Eux aussi, ils doivent aussi être appelés. Et eux aussi, ils doivent avoir sa propre rencontre intime avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous on croit ce qu'ils vont croire aussi. C'est pour ça qu'il y a un fossé générationnel aussi. C'est ce qu'il passe maintenant. Le monde est l'inverse. Tout ce qui est anormal devient normal. Et nous, des fois, on le laisse passer. Je ne dis pas qu'on doit être le FBI pour contrôler nos enfants, non. Mais il faut donner les bases, les valeurs. Il faut parler de la parole. Moi, je le dis à mon enfant, tu sais, ce n'est pas que parce que tu vas laisser ton héritage matériel. Des fois, c'est pire. J'ai vu mes grands-parents qui nous ont donné des héritages, des maisons. Et qu'est-ce qu'il se passait? La première chose que font les enfants, c'est les vendre ou se disputer. Et la famille se divise. Des fois, c'est pire. Mes parents sont trois maisons. Ils nous disent, qu'est-ce que tu veux? Laquelle tu préfères? Je lui dis, non. Ce n'est pas mon travail. C'était ses efforts. Je sais que voilà, tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Mais des fois, ça peut faire du mal. Parce que ce n'est pas les efforts à eux. Tu peux l'aider. Par exemple, je ne sais pas, tu peux l'acheter la première voiture, une vieille voiture, et après, à partir de lui, qu'il commence à valoriser, qu'il travaille pour valoriser. Parce que des fois, on est dans un milieu qui ne se rend pas compte de la valeur de la vie, de l'argent. Et ils ne valorisent pas tes efforts. Pour eux, c'est quoi que c'est normal tout. Qu'ils ont le droit à tout. Parce que dans les écoles, la première chose qu'on les montre, c'est les droits. Leurs droits. Ils le disent, tes parents, ils ne veulent pas te frapper, te discipliner. Par contre, la parole dit, le père qui aime, discipline son enfant. Et ça, on a oublié. Ma mère, je crois que s'il participait aux Jeux Olympiques avec la sandale, c'était la gagnola. C'était comme un boomerang. Et moi, j'esquivais, j'essayais tout, mais tout le temps dans la cible. C'était incroyable. C'était le professeur. Mais voilà. Elle, avec les yeux, je savais qu'elle était fâchée. Et je savais que... Mais voilà. Et je ne suis pas traumatisé. Au contraire. C'est grâce à ça que je peux survivre au monde. Peut-être qu'elle n'a pas me donné des valeurs de la parole. Mais déjà les valeurs moraux, les principes, les bases, c'est leur héritage qu'il m'a donné. C'est son héritage. Parce qu'un jour, tout le monde va mourir. Peut-être nos derniers jours seront dans un, dans une chambre, dans un hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'est-ce que j'ai laissé. Et des fois, tu vas mourir tout seul. Ta famille ne sont pas là, tes enfants, ou les personnes avec qui tu travailles. Et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Parce que le matériel, les maisons, l'argent, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que tu as laissé comme héritage aux personnes? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu, Jésus, avec 11 personnes, il a impacté le monde. Quand il a choisi, c'était des personnes qui n'ont jamais voyagé dans sa vie. Il a probablement un pêcheur, de tous les types de statut social. Une personne qui connaissait beaucoup, voilà, intellectuel, une personne qui ne savait rien du tout. Je ne sais pas comment il a dû gérer le caractère de chaque personne, parce que là, pour gérer, il y a deux personnes, c'est dur. Mais ils ont vu le miracle. Il les a formés. Ils se sont trompés. On va avoir des échecs. Mais c'est grâce aux échecs qu'on va réussir. Des fois, pour obtenir la paix dans ton foyer, il faut se battre. Des fois, on dit qu'on fait la guerre pour avoir la paix. Ce n'est pas la guerre. Voilà. C'est mettre les lois. Parce qu'il n'avait pas de roi. Il n'avait pas d'autorité. Moi, une fois, ma mère, j'étais dans la voiture. Et moi, j'aime bien mettre les chansons chrétiennes. Il m'a dit, tu peux arrêter ça? Si tu n'arrêtes pas ta musique, je descends de la voiture. Et moi, je lui ai dit, ma mère, avec tout respect du monde, combien je chez toi, toi, tu mets tes chansons du monde. Moi, je respecte tes principes, tes lois, ta maison. Maintenant, tu es dans ma voiture. Tu respectes mon choix. Et ça s'est passé normal. Moi, j'aime mes parents. Ah, les enfants aussi. Il faut honorer leurs parents. Il faut honorer les parents. Il faut obéir les parents, leurs conseils. Des fois, on croit qu'on te dit des bêtises, mais on ne se rend pas compte maintenant. Moi, j'aurais voulu que mes parents, comme le fils de Samuel, avoir entendu la parole depuis Jean. Parce que tu vas connaître encore mieux au Seigneur. Et tu vas savoir comment réagir aux situations difficiles. Mais comme les disciples. Je m'imagine, je vais paraphraser aussi avant de partir le Seigneur, je ne sais pas. Il va faire la remise de diplôme aux disciples. Il va dire, alors, maintenant, vous allez aller au monde. Vous allez partager la parole. Vous allez aller en prison. Mais vous allez continuer à louer, à chanter, à prier. Peut-être qu'ils vont vous frapper en mon nom, mais vous serez très fiers de me servir. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de sécurité sociale, mais vous allez avoir toute la foi et la confiance en moi. C'est ce qui veut Dieu. Vous savez pourquoi Dieu donnait la manne? Il voudrait qu'il faut la ramasser simplement tout ce que tu avais besoin ce jour et pas garder pour le lendemain. Vous savez réfléchir pourquoi? Moi, je pense parce qu'il faut vivre un jour à la fois et il faut dépendre tout le temps de Dieu. Parce que c'est facile quand on a l'argent de côté, quand on a une bonne santé. C'est facile de prêcher. Mais quand on est de l'autre côté, quand on passe les épreuves. C'est pour ça qu'il faut maintenant partager ta parole à tes proches, à tes enfants. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as envie de l'embrasser devant l'école, fais-le. Les enfants ont honte. Mais le jour, croyez-moi, que tu vas, tu auras besoin d'un bisou de ta maman et qu'elle ne soit plus ici dans le monde, ce jour, tu vas le regretter. Et tu vas dire, pourquoi je n'ai pas profité de la vie? Pourquoi je n'ai pas profité de mes parents? Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de ça. Ça, c'est l'amour. On a perdu nos valeurs, les bases. Après, ce n'est pas que parce que okay, tu vas le former dans la parole aussi que ça va être tout bon. Non. Rappelez-vous de la parabole du fils prodigue. Il s'est perdu dans le monde. Mais grâce qu'il était cimenté dans la parole, il a une phrase, il a une partie qu'il dit, il est revenu au Père. Je n'ai pas fait attention à cette phrase-là, mais il dit ici, je vais revenir à mon Père. Ce n'est pas dire, je vais revenir à la maison de mon Père parce que là, je mangeais bien, non. Je dois revenir au Père. Il faut que tu reviennes au Père. Et ces paroles, c'est aussi pour les personnes qui n'ont... Ce n'est pas simplement parce qu'on n'a pas de parents, voilà, qu'on doit... T'as un Père aussi au ciel, pour les personnes qui ont perdu leurs parents. On a un seul Père. Et j'ai trouvé une anecdote. Et j'étais touché là, c'était bien. C'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça s'est passé en décembre, en 1944. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quand l'armée américaine est très entourée par l'armée allemande. Et ils ont reçu un ultimatum. Ils ont dit, vous êtes entourés. Voilà. Il faut se rendre. Et là, le général, je s'appelle, c'est un nombre bizarre. McAuliffe. Le général McAuliffe dit, bon, monsieur, on est dans une situation très grave. On est entouré par l'ennemi. On n'a nulle part où y aller. Mais aussi, c'est une grande opportunité. Parce que ça peut devenir historique. D'une armée qui se trouve. Voilà, à ce moment-là, il a dit, maintenant, on peut attaquer dans n'importe quel sens. Mais il faut y aller. Vous savez, le monde... Il est en train de tuer. Le monde se brûle. Des familles dysfonctionnelles, des enfants perdus. L'avortement est normal. Pareil, maintenant, vous êtes la génération qui a l'opportunité de faire histoire. Il faut s'élever. Il faut se battre. Et attaquer sous n'importe quel sens. Parce qu'on est entouré pareil. On commence à vivre les derniers jours. C'est pour ça, je ne sais pas si tu as eu un appel. Et je ne sais pas quel est ton appel. On va prier. Seigneur. J'espère, Seigneur, que ya communiqué, Seigneur, ton message. Que tu as mis dans mon corps, Seigneur, pour ton peuple. Travaille avec eux, Seigneur. Je sais que des fois, on a peur de servir, de suivre l'appel. Parce qu'il a des sacrifices. Mais ta promesse est toujours bonne, Seigneur. Qu'on soit comme le disciple, Seigneur. Qu'on doit suivre, qu'on doit apprendre, qu'on doit être humble. Même pas pour nous simplement, Seigneur, parce qu'on pense aux personnes, Seigneur, qui sont dans le monde, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Mais il ne faut pas, Seigneur, qu'on soit comme dans la parabole des talons, de rester ça avec nous, parce que tu peux nous enlever. Il faut que nous, Seigneur, on puisse multiplier comme les disciples se sont multipliés, Seigneur. Nous, ta parole dit qu'on est le corps de Christ. Tous. On a un seul corps. Il n'y a aucun organe qui est plus important que l'autre. Aucun membre qui est plus important que l'autre. Tu es la tête, Seigneur, de ton Église. Nous, c'est les mains, les corps, les poumons, les pieds. Mais tous avec une seule vision, Seigneur. Je te, Seigneur, te demande, s'il te plaît, que, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos pensées. Et surtout, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, comme on dit aujourd'hui la chanson, à trouver notre chemin. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Si tu le crois, dis oui, Seigneur, Seigneur, parce que Dieu est là, Seigneur. Et si yo aurais une dernière chose pour dire, Seigneur, a tout le monde, si ça sera mon dernier jour ici, yo te diré que Dieu t'aime. Qu'il t'aime malgré ce que tu es. Parce que Dieu, c'est un amour inconditionnel. Et quoi que tu fasses, tu seras toujours leur fils. Amen.